podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv. Alexandre Barlier.
La commune est un quartier gangréné par le chômage, la criminalité et le trafic de drogue. Les habitants de cette cité se battent tous les jours pour survivre dans cet environnement hostile, peu importe les moyens employés pour y arriver. Vous l'aurez compris, le thème de dossier du jour, c'est bien entendu La Commune, la série de Canal+, avec à l'affiche Thomas Sisley qui joue le rôle de Houssine Zemmouri. Thomas Sisley, eh bien, c'est l'humoriste bien connu. Autre acteur de cette série, Hicham Abadi, interprété par Francis Renaud, qu'on a pu notamment voir dans l'affaire Villemain. Pour nous en parler aujourd'hui, Héloïse Rouard.
Bonjour.
Et pour en discuter, Sarah Sepulcre et Nathanaël Picasse.
Point de départ de l'histoire, c'est le retour d'Hicham Amadi à la commune, après avoir purgé une peine de 20 ans de prison pour avoir tué deux policiers. Une peine de prison qui lui a permis de se convertir à l'islam. Donc un retour d'Hicham Amadi qui n'est pas forcément vu d'un très bon œil dans la commune, notamment par son ami d'enfance Daoud, devenu accessoirement le caïd de la commune, mais aussi par le policier Denis Moreau, qui est aussi le fils d'un des policiers tués 20 ans auparavant, et également par le maire qui, lui, souhaite raser le quartier et en reconstruire un nouveau tout en nettoyant la commune des familles qui posent problème.
Il faut quand même bien dire, dans un premier temps, et ça on va l'apprendre assez rapidement, qu'Hicham Amadi n'est pas réellement le meurtrier.
Plutôt spectateur de cet assassinat.
Ce qui va logiquement tout changer.
Dans la suite des épisodes. Et donc, la tension dans la commune est bien réelle. C'est vraiment quelque chose que l'on sent dès le premier épisode. Le ton de la série est résolument noir et pessimiste. Il y a peu ou pas d'issue possible pour les habitants de cette banlieue. Il faut savoir qu'à la commune, la vie, on la subit. On ne vit pas, on survit. Donc c'est vraiment une ambiance très lourde qui est déjà donnée dans le générique de la série, avec une musique relativement proche d'une sirène ou d'une alarme qui est assez stridente.
Faut dire qu'on n'est pas du tout épargné par cette série. Dans le premier épisode, on a déjà une scène de viol, on a une scène d'overdose forcée, on a un assassinat, du trafic de drogue. Dès le premier épisode, on est vraiment dans le jeu complet, là.
Oui, je veux dire, le premier épisode met le paquet de ce côté-là. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de violence, que ce soit physique, que ce soit pornographique, que ce soit verbal. Le téléspectateur n'est vraiment pas épargné. Donc, il y a vraiment, je pense, un souci de choquer, oui, de choquer le téléspectateur.
Donc, on est loin d'éclairir de Julie Lescaut. Il y a aussi, on se détache de ce genre de série-là française qui existait avant, alors.
Oui, oui. Pour moi, il y a quelque chose d'assez audacieux et d'assez nouveau, justement, dans cette mise en scène de la violence. On n'est vraiment pas dans une série comme Julie Lescaut, tout à fait aseptisée de ce genre de choses.
Faudra envoyer Joséphine Ange Gardien pour un peu régler tout ça. Non, mais je voulais réagir sur le fait que donc, c'est très violent, on l'a compris. Mais est-ce que c'est de la violence pour la violence, pour choquer, ou il y a quand même une réflexion derrière? Ou c'est vraiment, allez, on met le paquet, histoire de dire qu'on fait un peu la série à l'américaine, où on y va, on essaie de faire une sorte de The Shield à l'américaine? Ou alors, effectivement, il y a une réflexion sur la condition des gens dans les banlieues?
En fait, le créateur de la série, qui est Abdel Raouf Dafri, a répondu à cette question en disant que lui présentait juste une création. Il ne veut pas, en tout cas, développer une réflexion sur les banlieues ou ce genre de choses, en tout cas sur la violence dans les banlieues. C'est pas son rôle à lui, en tout cas. Il veut juste montrer ce qu'il fait. Et même si c'est vrai, la violence, justement, dans cette série peut poser énormément de questions, surtout que c'est filmé de façon très réaliste aussi.
C'est un peu la réponse, un peu la langue de bois, je trouve, parce que, je veux dire, à partir du moment où on fait une série télévisée, on sait très bien que les gens vont s'identifier par rapport à ça, et ça va créer le débat par rapport aux cités, surtout dans le contexte avec Nicolas Sarkozy, où on a parlé de passer au Karcher les cités et tout. Je veux dire, il y a quand même un intérêt par rapport à ça, et jeter cette série-là en disant « Ouh, non, 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 c'est juste, c'est presque que de l'art, enfin, ça ne lance pas débat », si, ça lance débat, c'est un peu une réponse qui n'en est pas vraiment une, je trouve.
Je trouve également que ce n'est pas une réponse très convaincante de la part du créateur, et malgré tout, ça pose question. Je pense que même le fait de filmer cette série dans une banlieue où les figurants, ou une grosse partie des personnages qui font de la figuration, sont réellement des habitants de cette banlieue, là, forcément, on touche quelque chose et on pousse peut-être là où ça fait mal ou on essaye du moins.
Un extrait pour illustrer ce que tu viens de nous dire.
Il s'agit en fait de l'intervention d'Ossine Zemmoury, qui est interprétée par Tormer Sisley. Ossine Zemmoury est en fait une sorte de narrateur dans la série. Donc il intervient principalement au début et à la fin d'un épisode.
Au sein de la série, il a un tout petit rôle. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est un peu un observateur. Il est le coiffeur de la cité et on le retrouve un peu dans chaque appartement. Mais il n'a pas un rôle primordial. Par contre, il a un rôle de narrateur omniscient au début et à la fin de chaque épisode.
Oui, c'est ça. Il va donner son point de vue, il va donner un certain regard sur la vie à la commune et il va utiliser des métaphores, des proverbes ou des événements historiques pour illustrer cela. Et c'est chaque fois en rapport avec le scénario de la série qui est présenté.
Au départ, il n'y avait que dalle. Walou, la terre était vierge. Et parce qu'il se faisait chier, Dieu a décidé de changer tout ça. En 6 jours, Dieu a créé le minéral, le végétal et la pire espèce du monde animal, l'homme. Tout ça en seulement 6 jours. 6 putains de jours. Et moi, ce que je me demande, c'est combien de temps Dieu a pris sur ces 6 putains de journées pour créer ce cauchemar qui s'appelle la commune. Et s'il est si fier de son œuvre, pourquoi cet enfoiré ne descend pas sur Terre pour faire un inventaire ? Dieu a décidé que ceux qui vivent là, en bas, et qui ne quitteront pas le sentier de l'honnêteté, iront dans un endroit meilleur, auprès du Seigneur, après leur mort, évidemment. Seulement voilà, Dieu n'a pas livré le mode d'emploi qui t'explique comment rester blanc comme neige quand tu patauges dans la merde.
À la commune, il n'y a ni début ni fin, ni bien ni mal, ni Dieu ni diable.
La commune est un enfer qui peut devenir un petit paradis. Mais à condition de savoir une chose, une seule. À la commune, le seul jour facile, c'était hier.
Ce type d'intervention un peu de narrateur omniscient, c'est pas la première fois qu'on voit ça à la télévision. On avait déjà eu un cas un peu particulier aux États-Unis.
Et oui, ces interventions sont un peu similaires aux interventions d'Augustus Hill dans la série Oz. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série Oz, c'est une série américaine des années 90 dans laquelle différents groupes de détenus, j'entends par groupe, donc des groupes de personnes identifiées selon leur religion, leur origine ethnique, leur origine sociale, étaient amenés à vivre ensemble dans le département carcéral de M-City. On aura l'occasion de revenir dans un prochain dossier sur cette série, donc je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ces interventions sont assez similaires à cette série.
Ce qui est assez intéressant, c'est que des deux côtés, tant la commune que Oz sont des séries très très noires, où il y a beaucoup de morts. Il y a un rapport entre les deux.
Oui, oui, tout à fait. Les deux séries donc, sont très noires, très pessimistes, énormément de violence. Et on peut dire que la commune, c'est un peu aussi un environnement carcéral. C'est un peu comme une prison à ciel ouvert.
Et ce sont toutes les deux aussi des séries dans lesquelles le narrateur a un statut vraiment particulier. À la fois, il fait partie du milieu dans lequel les autres évoluent. Donc, il n'est pas du tout extérieur à ce qui se passe là. Et en même temps, ces narrateurs ont des points de vue un peu distanciés par rapport à ce qui se passe, ce qui fait que ça donne une impression vraiment bizarre parfois.
De double personnalité, ouais. De double personnage. Ouais.
Une impression d'avoir face à soi un sage, d'une certaine manière un sage par rapport à l'histoire, mais qui en même temps fait partie, c'est assez particulier et assez intéressant comme utilisation de narrateur.
À un tel point qu'on a parfois l'impression que c'est le narrateur qui joue avec ses marionnettes dans la série quelque part.
Oui, c'est pas faux ce que tu dis.
Et je trouve aussi que ces passages aussi permettent aux téléspectateurs une certaine forme de respiration, même si ces interventions se font essentiellement en début et en fin d'épisode. Ça permet aussi de se détacher de la série parce que malgré tout, c'est très difficile à regarder. Enfin, c'est dur. Beaucoup de passages sont assez durs psychologiquement. Et ces interventions permettent justement d'y mettre une certaine forme d'humour, une certaine forme de détachement, oui.
Et tout comme dans Oz, elles sont tournées d'une manière assez particulière. Dans Oz, on a l'acteur qui est en chaise roulante, qui se trouve dans une cage qui tourne tout autour du décor. Ici, on a Tormer Sisley qui est incrusté à l'intérieur des bâtiments de la commune. Donc, il est sur le parking et la totalité du lieu est vide. et on projette des images. Je me souviens à un moment d'avoir vu des images de défilés nazis qui étaient projetées en grand sur l'arrière d'un bâtiment, et c'est vrai que c'est assez particulier.
Oui, on est vraiment très loin des voix off habituelles. Pensez par exemple à Desperate Housewives ou à La Petite Maison en Prairie, dans laquelle on a une voix off qui n'est pas avec un personnage pas visible à l'écran, mais qui nous raconte des choses sur ce qu'on est en train de voir. Par exemple, Walnut Grove, parce qu'on le prend en plan large, ou Wisteria Lane, parce que là aussi, on voit la journée qui se termine, etc. Ici, c'est pas ça. Et on voit que la voix off est du coup chargée de choses complètement différentes. On n'est pas face à une voix off qui ouvre et qui ferme un épisode. On est face à une voix off différente, qui prend position, prend distance. Et c'est là aussi où c'est un peu gênant quand ce sont... Enfin, gênant, sans être gênant, mais particulier quand ce sont des personnages qui font partie de la narration. Parce qu'on voit bien qu'on les met dans un statut qui n'est pas ça. Ton histoire de marionnettiste est pas inintéressante pour les expliquer, je trouve.
C'est aussi à ce moment-là que je me suis posé la question de savoir pourquoi le créateur de la série se targue justement de ne pas prendre position et juste de proposer sa création. Je trouve que le personnage de Tomer Sisley prend effectivement position, et ça on peut pas le retirer à la série.
Mais cette série est finalement excessivement violente, on est quand même pas proche de la réalité, c'est pas à ce point là quand même dans les cités.
Non, en tout cas je l'espère. Vraiment, je l'espère vraiment, parce que c'est sûr qu'avec justement cet effet de réalisme et cette violence extrême, on peut justement se dire, bon, est-ce que vraiment c'est comme ça dans les cités? J'espère que non, mais en tout cas il s'agit bien d'une violence qui met mal à l'aise, et je pense que justement, cette violence qui met mal à l'aise est due au fait que l'environnement soit très réaliste, que la mise en scène est très réaliste, et que peut-être le spectateur se dit c'est peut-être comme ça, même si c'est de façon inconsciente, oui, c'est peut-être comme ça.
Ce qu'on voit aussi, c'est l'influence, je pense, bon, c'est peut-être une interprétation qui n'engage que moi, mais l'influence de toutes ces émissions de télé-réalité qui ont maintenant joué sur les séries télé. Parce qu'avant les séries télé, je pense à des séries comme Buffy par exemple, désolé, j'en reparle à chaque fois, mais qui annonçaient dès le départ, voilà, on est des fictions, on n'a pas de prétention de représenter la réalité, même si on parle de choses sur lesquelles les gens peuvent se retrouver. Et maintenant, ici, après la télé-réalité, j'ai l'impression que les séries essayent d'amener de plus en plus d'éléments qui font réaliste, et donc il y a une véritable confusion entre la fiction et la réalité, et alors les gens ne s'y retrouvent plus. Tant mieux maintenant qu'il y ait ce narrateur quand même, peut-être à la fin, qui essaie de dire, bon, malgré tout, ça restait une fiction, avec ce procédé en plus là, justement, avec des images superposées, ce genre de choses, là où on se rend bien compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous parler directement. Mais c'est très étrange, et je crois que de manière générale, je vois des séries comme 24 heures chrono, The Shield et tout, jouent beaucoup sur cette ambiguïté entre réalité et fiction.
Je crois justement que c'est un peu particulièrement une exception française, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve particulièrement beaucoup dans les séries que Canal+ crée actuellement. On l'a vu aussi dans Reporter, et c'est vrai que toutes ces séries sont excessivement réalistes. Donc est-ce un bien, est-ce un mal? En tout cas, c'est une spécificité française que je n'ai pas l'impression qu'on peut retrouver aussi fort dans les séries américaines.
Les séries françaises ont encore limite honte d'être une fiction quelque part. Il faut amener un petit élément qui fait réel, parce que si on est dans la pure fiction, alors c'est si on est dans Hélène et les garçons ou je sais pas trop quoi.
Alors c'est leur possibilité peut-être de démarquer des séries américaines.
Aussi possible.
Moi je prendrais justement plus ce côté en disant que cet élément de réalisme essaye justement de détacher les séries françaises des séries américaines. Parce que, comme le dit le créateur ici de la série, on n'a pas le budget américain. On ne fait pas de la série américaine. On ne veut pas, en tout cas, parce que ce n'est pas la même chose de toute façon. Donc justement, cet effet de réalisme est peut-être une valeur ajoutée, en tout cas, pour la commune. L'extrait qui suit est le premier face-à-face entre Daoud et Hicham Hamadi, après la sortie de prison de Hicham Hamadi. Un face-à-face très tendu, puisque ses deux anciens amis donc, étaient impliqués dans la mort des deux policiers 20 ans plus tôt, l'un comme acteur et l'autre comme spectateur.
Comment ça va, François? Allahu Akbar. J'ai toujours pensé que la religion, c'était un truc d'imbécile et de faible.
Et que dire de la drogue, mon Daoud?
Avec mon produit, on est prévenu. On sait qu'il n'y a pas d'issue. Mais le tien, si t'étais aussi malin qu'on le dit, tu saurais que rien n'est plus instable ou plus violent que des paumés qui croient que Dieu existe, qui les aime et qui va leur redistribuer les cartes du jeu de la vie.
S'il ne le fait pas ici, il le fera dans une autre vie. Je peux savoir pourquoi tu es là?
Pourquoi tu m'as pas balancé il y a 20 ans?
Ils m'ont pris ma mère. Et j'aurais dû en plus leur livrer un ami.
Ami? Le seul que t'as eu, tu l'as tué. Je t'avais dit de pas venir avec Mohamed. Il a toujours été plus fragile que nous deux, et ça, tu le savais.
C'est une dette que je pourrais peut-être effacer dans l'autre vie. Mais toi, dans celle-ci, tu m'es redevable.
Est-ce que tu sais ce qui est arrivé aux trois califes qui ont succédé à ton prophète Mahomet?
Tous ont été assassinés pendant leur prière.
Tu devrais faire mettre une porte et un verrou. N'oublie pas, on est à la commune. Il y a bien longtemps que Dieu s'en est absenté.
Le générique est un peu particulier.
Un générique, oui, vraiment particulier. Donc, il met en scène des images de la commune, des images de couleur ocre, un peu à la façon des westerns. Le tout agrémenté d'une musique plutôt inquiétante. La présentation des personnages, elle, se fait par des images assez furtives et le nom des acteurs est fait sous forme de graffiti.
C'est pas inintéressant de se rendre compte, finalement, tu le dis, c'est une couleur ocre, c'est une couleur western. On est finalement quelque part devant un western moderne.
Oui, c'est un peu ça, oui. Un lieu où chacun essaye de survivre et si c'est pas toi, ben c'est moi et chacun pour soi et Dieu pour tous.
Oui, dans le western, c'est un peu aussi la loi du plus fort et j'ai pas vu la série, mais je sais pas quel est le rôle du shérif, j'allais dire, ou en tout cas quel est le rôle de la police dans cette série, comment elle est représentée, est-ce qu'on voit, on suit des policiers ou alors c'est vraiment des règlements de compte entre personnes, un peu à la manière de Desperate Housewives quelque part, qui est un petit peu western aussi, où c'est tout le monde se bat dans la maison mais la police n'est pratiquement jamais là.
En fait, le rôle de la police est très particulier. Je veux dire que la police dans la commune a plutôt un rôle de figuration. Chacun met les règles qu'il veut, mais malgré tout, la police est là au cas où. Donc il y a vraiment un rôle de figuration, notamment avec le policier Maurice Dubard, qui travaille à la commune depuis 20 ans et qui sait comment ça marche et vaut mieux laisser faire. Et...
Sachant aussi que ce Maurice Dubard, quelque part, il n'est pas totalement innocent dans l'accusation d'Hicham Hammadi.
Non, Maurice Dubard, non, pas du tout. En fait, c'est le policier qui est arrivé en premier sur les lieux du crime, lorsque les deux collègues ont été tués. Il a vu donc Hicham Hammadi, qui s'appelait à l'époque Francis Lazare, sur les lieux du crime et a témoigné au procès contre le jeune garçon.
En disant quasiment que c'était lui qui tenait le pistolet alors qu'il n'a rien vu du tout.
Est-ce que cette police est corrompue aussi? Parce que, bon, comme apparemment les règles sont un petit peu différentes dans ce vase clos, est-ce que la loi est un petit peu réinterprétée aussi? Est-ce que cette police joue selon d'autres règles?
Les policiers qui sont en poste à la commune, on peut dire que oui, en fait, pas tous les policiers, puisqu'il y a une jeune flic, on va dire, qui essaye malgré tout de faire bien son job et d'arrêter les méchants.
Elle sera vite arrêtée, puisque les premiers jours où elle est sur le terrain, Maurice Dubard, elle va vouloir interpeller quelqu'un et lui dire « Tiens, t'as pas tes papiers ». Maurice Dubard va lui dire « Non, ici, écoute, tu la joues mollo sur ce coup-là. Si on doit s'occuper que de ça, alors on sait pas s'occuper du plus gros. » Donc, quelque part, on ferme les yeux sur une grosse partie des délits.
C'est là qu'on retrouve justement la police de figuration dont je viens de parler. Et donc, oui, les policiers sont corrompus. Certains policiers sont corrompus. Et notamment, Denis Moreau, en fait, qui est le fils d'un des deux policiers qui avait été tué 20 ans auparavant et qui en fait a une véritable haine pour Hicham Hammadi et est prêt à tout pour tuer justement Hicham Hammadi, quitte à pactiser avec certains habitants de la commune.
On a parlé jusqu'à présent et on en a parlé tout à l'heure de la réalité dans cette série. On en parlait tout à l'heure aux antennes. Est-ce que finalement, même si on se rend bien compte que cette série n'est pas réaliste, si elle donne un air justement de réalisme, est-ce que ça ne donne pas une mauvaise image des banlieues, une image pire que celle qu'on pourrait avoir justement?
En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue dans un premier temps. Je me suis dit, bon, si les banlieues sont comme dans la commune, c'est vraiment impossible et ça peut monter vraiment dans un sentiment de peur extrême. Mais dans un deuxième temps, les interventions notamment de Thomas Sisley permettent de prendre distance et de dire bon, c'est une fiction, malgré tout je pense que dans les banlieues c'est pas comme ça, et même si la vie est difficile, une telle violence c'est impossible.
Moi je trouve ce qui serait intéressant, je ne sais pas ici si l'auteur de la série est issu de banlieue lui-même, je pense que oui, alors
oui, il est issu d'une banlieue.
Ce qui serait aussi intéressant, ce serait d'avoir une autre série un peu qui ferait contrepoint à cette série là qui montre ce qui se passe aussi et ce qui se passe bien dans les banlieues. Il y a aussi des choses qui doivent être très humaines, très étonnantes, pas seulement que de la violence, parce que là j'ai l'impression qu'on est dans un reportage un peu de TF1 quelque part. L'élection de Jacques Chirac la deuxième, ils avaient vraiment insister là-dessus. À chaque fois, il y avait un reportage sur les violences. Ce serait bien de montrer aussi l'autre côté. Il devrait certainement avoir de très belles choses dans les banlieues. Je n'en connais pas personnellement, mais je pense que ça peut pas être que de la violence.
Attention qu'il y a quand même quelques personnages qui sont positifs dans cette histoire. Il y a le personnage de Thomas Sisley qui, lui, va lutter contre l'extrémisme religieux de son frère, par exemple. Il y a le personnage de Anita Bonny qui est l'assistante sociale qui essaie au maximum d'aider les gens de la commune. Il y a aussi le docteur qui va essayer en tout cas de sortir un jeune de la commune de la drogue. Par contre, chacun de ces personnages a une face noire, c'est-à-dire que Anita Bonny a dû fuir le Portugal pour éviter les violences de son mari. Le docteur est alcoolique, donc ils ont tous une face noire, quelque part. Mais il y a quand même quelques personnages positifs.
C'est ce que je reproche aussi peut-être aussi à la série, c'est qu'elle ne joue pas véritablement dans la nuance. Certains passages de la série, c'est véritablement de la violence pour de la violence, montrer, pas du tout suggérer, et c'est vraiment ce côté-là qui, pour moi, est de trop, en fait.
Le personnage de Ousmane Daoud, qui lui est un personnage, un monstre sanguinaire quelque part, mais qui a été enfanté par cette commune. S'il est ce qu'il est, c'est à cause de la vie qu'il a eue quand il était jeune.
Oui, oui. Au fil des épisodes, on voit justement comment il est devenu ce qu'il est. C'est là aussi qu'on peut se poser la question de savoir si les banlieues engendrent véritablement ce genre de personnages.
Canal+ a décidé qu'il n'y aurait pas de saison 2 parce que, semble-t-il, qu'ils ne trouvent pas la commune assez sexy en termes de vente. Et donc, malgré des audiences relativement bonnes, il n'y aura pas de saison 2.
Ce que je trouve relativement dommage, parce que malgré tout, la série a du mal à démarrer, mais après quelques épisodes, on est vraiment pris dans l'histoire. On est vraiment, il y a une véritable addiction à la série. Couper comme ça la série...
D'autant qu'à la fin, on n'a pas la solution de tout. On a une solution d'une partie des histoires, mais tout n'est pas résolu. On a d'ailleurs un cliffhanger à la fin de la saison qui est, et on restera sur notre fin.
Oui, voilà, ça rend vraiment le téléspectateur frustré.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.